Alors moi, je tiens juste à signaler que je suis plutôt philosophe qu'historien, donc j'ai quelques connaissances d'histoire, des genres et tout ça. Et il y a une exposition assez incroyable qui est maintenant au nouveau musée de Bienne, qui retrace vraiment cette histoire-là, qui remonte à l'archéologie, à la question de savoir est-ce que effectivement les sociétés étaient divisées en hommes chasseurs, femmes qui restaient déjà à la maison tandis que l'homme allait chasser, la femme allait cueillir et tout ça. Donc ces mythes un peu là, c'est une exposition qui déconstruit justement déjà un peu cette histoire-là qu'on se fait d'une distinction comme ça qui aurait traversé toute l'histoire de l'humanité. Donc c'est une question intéressante à propos de laquelle j'invite les gens à aller voir cette exposition justement.
Et au niveau de la philosophie, comment on s'est penché sur la question ?
Ce qui est assez particulier, c'est que la philosophie, c'est quand même quelque chose qui est très masculin, qui est resté assez masculin. Encore aujourd'hui, il y a finalement assez... Enfin, il y a moins de... Même au niveau des études et tout ça, il y a plus d'hommes que de femmes. C'est resté, malheureusement, quelque chose qui est un petit peu, un peu masculin. Et puis, voilà, il y a toute une liste de philosophes très, très machos qui ont toute une série de propos vraiment... assez scandaleux à écouter aujourd'hui, parce que enfin, c'est aussi assez amusant parfois de lire leurs livres, de voir à quel point ils peuvent être très très profonds sur certaines questions, puis tout d'un coup quand il s'agit de la femme, balancer des gros trucs absolument étranges. Donc il y a toute une tradition philosophique qui s'agit aussi un petit peu de déconstruire, même s'il y a aussi des philosophes féminins qu'on connaît peu, qui ont été un peu éclipsés dans l'histoire comme ça, Panthéon, qu'on fait de la philosophie, on garde quelques noms d'hommes très importants. Puis on a tendance à un petit peu à mettre dans l'ombre les personnages féminins.
Vous avez un exemple d'aberration que vous avez lu ou dont vous vous rappelez ?
Justement, il y a Aristote est assez connu pour ses phrases où il dit que la femme sert justement, on en avait parlé, à recueillir quelque chose et puis à enfanter. Enfin voilà, c'est sa fonction. Mais par contre, qu'elle n'a pas accès à quelque chose qui est de l'ordre du raisonnable, de vraiment l'intelligence supérieure, tout ça, c'est pas son rôle. Il ne faut pas la compliqué avec ça. Ce qui est aussi assez amusant, c'est qu'on a quelques très anciennes représentations d'Aristote où on le voit sur un vase, en fait, qui se fait fouetter par sa maîtresse, ou je sais pas quoi. Enfin, il avait un rapport assez conflictuel, apparemment, aux femmes et tout ça. Il y aurait une petite recherche à faire sur Aristote et les femmes, mais ça commence là, il y a ça là, puis ensuite ça, dans toute l'histoire de la philosophie, cette idée vraiment que la philosophie est réservée aux hommes, et puis les femmes, elles ont d'autres choses à faire qui sont plus du côté du matériel, du concret, de s'occuper de la maison, tout ça.
Alors justement, pour une des phrases d'Aristote qu'on a retenue, nous, c'était « La femme est un vulgaire réceptacle à la substance fécondante du mâle ». Les philosophes, à l'époque, c'était des personnages très importants dans la société. Ça veut dire qu'un homme qui dit une phrase pareille, cette phrase, elle va être prise par la population, adoptée et reproduite dans le quotidien. C'était ça le danger.
Encore une fois, moi, je connais un petit peu l'histoire de la philosophie, mais je suis pas historien, donc j'aurais de la peine à aller vraiment dans le détail. Et je pense que pour répondre bien à ces questions, il faudra aller vraiment, voilà, dans le détail de la société athénienne du 5e siècle avant Jésus-Christ, vraiment essayer de décrire le rôle des philosophes. Est pas du tout le même dans l'Antiquité qu'au Moyen Âge, qu'à la Renaissance. Enfin, il faudrait vraiment essayer d'aller dans plus de détails pour vraiment essayer de fixer ce que c'était le rôle et la puissance qu'ont pu avoir les philosophes. Enfin, il faudrait vraiment aller, je pense, dans plus de détails. Mais voilà, moi, j'ai plutôt tendance à estimer qu'un philosophe, c'est quelqu'un qui émerge un petit peu de la société et qui traduit, en fait, par des phrases assez fortes ou par des livres comme ça, des idées ou des choses ou des éléments qui sont là aussi ailleurs, qui sont là dans l'art, qui sont là dans les mentalités, plutôt que quelqu'un qui, voilà, qui dit quelque chose et ensuite les gens le suivent. Je pense qu'il émerge plutôt de quelque chose d'idées ou de sensations, de sentiments qui existent déjà, en fait.
La matinale RJB.
Nous sommes avec Adrien Bourdonne et nous discutons de la distinction entre femmes et hommes dans notre société. Alors, philosophe et réalisateur, Adrien Bourdonne, vous êtes avec nous ce matin et puis vous donnez donc une série de séminaires philosophiques dès la fin du mois consacrés à la distinction du féminin et du masculin dans notre société. Alors aujourd'hui, les genres, ils sont vraiment critiqués. Pourquoi ?
Il y a toute une histoire du féminisme, de la revendication des femmes, d'avoir droit à l'égalité et tout ça. Il y a toute une histoire du courant féministe qu'il faudrait raconter, qui est vraiment légitime, qui est vraiment intéressante et tout ça. Puis aujourd'hui, je trouve la question, c'est surtout, voilà, qu'est-ce qu'on garde de cette distinction ? Comment est-ce qu'on a envie d'organiser le féminin et le masculin ? Est-ce qu'on a envie de conserver cette distinction un petit peu, pas du tout ? Est-ce qu'on a envie de la dépasser complètement ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que voilà, il y a toutes ces questions de savoir si elle est ancrée dans quelque chose de biologique ou pas. Il y a toutes sortes de questions qui se posent et qui se posent vraiment de manière assez, assez intime, je crois, où chaque personne s'identifie plus ou moins au code féminin, masculin, les intègre, les accepte, les rejette. Enfin, c'est tout un questionnement assez personnel, je crois, qu'on a tous un petit peu et que j'ai vraiment envie d'approfondir lors de ce séminaire, quoi.
Appartenir à un genre, c'est important pour la construction personnelle ?
Ben, la société veut que ce soit important, parce qu'un petit garçon, une petite fille, on le traitera évidemment différemment. Il y a tous des codes, il y a toutes des attentions qu'on aura par rapport à un garçon qui seront différentes par rapport à une fille, des attentes aussi par rapport à ce qu'ils feront, par rapport à ce qu'ils sont et tout ça. Donc, ils sont importantes à la base. La question, c'est est-ce que plus tard, une fois qu'on est, disons, adulte ou raisonnable, ou voilà, qu'on a une certaine liberté, est-ce qu'on essaie de s'en débarrasser ? Est-ce qu'on essaie de les dépasser ? Ou est-ce que plutôt, on estime qu'ils sont importants, qu'ils font partie de nous, qu'il faut les conserver ? Enfin, c'est toutes ces questions-là qui m'intéressent en faisant vraiment appel, je crois, à ce que les participants vivent un peu eux-mêmes. Est-ce qu'il y a certains codes et certains traits qu'ils ont envie de défendre ? Est-ce qu'il y en a d'autres qu'ils ont envie de rejeter ? Jusqu'où ? Et puis en lisant aussi des auteurs qui sont un petit peu des lumières, qui nous guident un petit peu là au milieu.
Certaines personnes se définissent comme non-binaires, c'est-à-dire sans genre. C'est une nouveauté qui pose aussi beaucoup de questions. Comment on peut se définir sans genre ?
Ben, c'est une question intéressante. Moi, ce qui m'intéresse au départ, en fait, c'est vraiment la construction des catégories, quoi. La catégorie masculin et féminin. Là, on peut aussi remonter à Aristote, qui n'a pas dit que des bêtises, mais qui a aussi dit quelques trucs intéressants qui théorisent un peu les catégories. Comment est-ce qu'on fait pour poser une catégorie ? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'une catégorie soit pertinente ? Ben, il dit, voilà, il y a la notion d'essence, quoi, de définition. Donc, pour qu'on ait une catégorie, il faut qu'on définisse clairement la chose qui appartient à cette catégorie-là. Alors, on peut se demander, ben, quelle est la définition de femme ? Quelle est la définition d'homme ? Voilà, il y a des gens qui diront, est une femme ce qui a un utérus, quoi, par exemple, ce serait une définition. Puis on se rend compte que ça joue pas, qu'il y a plein de voilà. Est-ce que dès qu'on est une femme, on est une femme et qu'on n'a pas d'utérus, est-ce que du coup on est un homme ? Enfin, toutes ces questions-là sont beaucoup plus compliquées que ça. Et puis du coup, être non binaire, moi je trouve que c'est une solution qui est intéressante. Moi, j'ai envie d'avoir une posture critique, pas dogmatique. J'ai pas envie de défendre un message ou quoi. J'ai plutôt envie que les gens se questionnent tout simplement. Je crois que c'est l'attitude philosophique de base. Après, la question, c'est si on est non-binaire, par rapport à quoi on se situe ? Si on n'est ni homme ni femme, qu'est-ce qu'on est ? Par rapport à est-ce qu'on est humain, tout simplement, face aux animaux, par exemple ? J'ai lu un livre il n'y a pas longtemps d'un type qui parle du fait qu'il est humain face aux extraterrestres, quoi. Que lui, il est humain, que s'il y a autre chose, il y a les extraterrestres. Je ne sais pas si vous captez un peu ce que je veux dire. Enfin, il faut un autre face auquel on se situe pour se définir soi-même, je crois. Donc si c'est pas l'homme ni la femme, qu'est-ce que c'est ? Par rapport à quoi est-ce qu'on se définit ? De quoi est-ce qu'on est différent ? De quoi est-ce qu'on est semblable ? Enfin, c'est toutes ces questions-là qu'on va effleurer lors de ces séminaires, quoi.
Est-ce qu'il faut aussi faire attention aux termes et ne pas confondre féminin, masculin et féminité et masculinité ?
Ouais, il y a tout un courant maintenant qui s'appelle les masculinity studies, où ils étudient justement quels sont les attributs de la masculinité, comment est-ce qu'on s'identifie à un homme. Il y a par exemple, les films sont très intéressants à analyser pour ça. Moi, je fais des films et un peu de philosophie, donc ce sera l'occasion aussi de voir justement la féminité, comment est-ce qu'elle est transcrite dans des codes, dans des images et tout ça, la masculinité aussi, comment est-ce qu'on s'identifie ou pas à ces choses-là. Et puis, ce qui est intéressant à parler de féminité plutôt que de féminin, c'est peut-être de dire, voilà, il n'y a pas une essence qui est le féminin. La femme, elle est le féminin, mais il y a la féminité. C'est un espèce d'attribut un peu abstrait qu'on peut essayer de comprendre, qu'on peut essayer d'analyser et tout ça. Et la femme n'est pas forcément féminine. La femme peut avoir des traits de masculinité, des traits de féminité. Enfin, on peut essayer de déconstruire tout ça, d'y réfléchir. Encore une fois, moi, j'ai pas forcément un message à mettre dans la tête des gens. C'est plutôt, voilà, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment est-ce qu'on comprend ça ? Comment est-ce qu'on peut analyser ces discours ? Voilà.
Adrien Bourdonne, merci d'avoir participé à notre émission ce matin pour parler de la distinction féminin-masculin. On vous souhaite une excellente journée.
Merci à vous.